Alors bah, bonjour à tous, je m'appelle Loïc, donc je vais vous présenter un instrument, je suppose que ceux qui sont là ont déjà vu ce qu'ils viennent voir, enfin déjà vu le titre, en tout cas l'intitulé. Donc je vais vous parler du... Alors ça c'est un violon, et l'instrument qui est caché là-bas, le film ne me permet pas d'y aller, donc je vais vous le montrer dans un instant, c'est l'alto. Mais... Oui, non, c'est pour ça. Merci. Ah là, j'ai plus d'excuses. Donc l'alto, à côté du violon, l'intérêt du violon, c'est pour ici, ça sera d'être le faire-valoir de l'alto. Donc, le violon, c'est un instrument, tiens d'ailleurs, c'est un instrument de musique. Est-ce que certains d'entre vous sauraient me décrire ce qu'est un violon? Alors, moi j'aime bien faire participer le public. Qu'est-ce que c'est un violon? Alors, la réponse, un instrument à cordes frottées. Alors, un instrument à cordes, il y a des cordes. Et là, je viens de les pincer comme on jouerait de la guitare, mais sauf que nous, on va les frotter avec cet objet que l'on appelle un archet. Et d'ailleurs, l'archet, ça vient de quel mot, à votre avis? Arc, bravo, disons que vous êtes très érudit, je vois. Donc effectivement, l'arc, c'est un bois que l'on bande avec une mèche qui est censée envoyer des flèches, mais là, chez nous, ça sera un arc. Enfin, un archet, donc une baguette en bois qui sera tendue à l'aide d'une mèche que je vais vous présenter un peu plus précisément. Une mèche basée sur quelle matière? Voilà, des crins de chevaux. Des crins de chevaux qui viennent soit d'Alaska, soit de Mongolie, pour des raisons de qualité de crin, et qui viennent uniquement des chevaux mâles, pour des questions d'urine, que je ne préciserai pas plus que ça. Je vais vous montrer un peu... le principe de l'archet, vous voyez qu'il est à une distance à peu près parallèle, la baguette en bois est à peu près parallèle à la mèche, à peu près, parce que c'est pas tout à fait vrai, c'est légèrement concave. Là, j'ai détendu l'archet, on voit que c'est déjà moins parallèle, la mèche est plus détendue, on voit certains crins qui sont relâchés, et le bois est beaucoup plus concave qu'auparavant. Je continue. On voit effectivement que c'est bien une mèche de crin de chevaux, de la queue du cheval d'ailleurs en l'occurrence. Et on voit aussi que la baguette est particulièrement courbée en réalité. Voilà. Donc, je vais retendre. Et donc petit à petit, en retendant, on va constater que la mèche va tirer. En fait, quand je tends, qu'est-ce qui se passe? En tournant la vis, j'éloigne cette petite partie qui s'appelle la hausse. Elle va aller dans cette direction-là par un petit effet de vis. Et en allant par là, bah, ça tend la mèche. Et en tendant la mèche, ça va tendre le bois qui va se courber, donc qui va être contrarié petit à petit.
Et là, on voit que ça s'éloigne et petit à petit. Là j'exagère, là, je me fais trop.
Ça devient une forme convexe. Donc c'est le contraire. Donc là, il est beaucoup trop tendu. Mais sachez qu'à l'origine, les archets ressemblaient plus, les anciens archets du XVIIe siècle et d'avant, et il y a très longtemps. On ne sait pas exactement quand étaient les premiers archets, mais en tout cas, c'est de la préhistoire. Et bien, ils étaient plus dans cette forme-là que dans la forme que vous pouvez observer généralement aujourd'hui avec les archets modernes. Donc je suis venu parler de l'alto, c'est pour ça que je viens de vous présenter l'archet, qui sert à jouer le violon. Donc le violon, c'est un instrument à cordes frottées, on vient de voir qu'on le frotte avec l'archet. Il y a combien de cordes sur un violon? Voilà, 4 cordes, effectivement, d'ailleurs on peut le voir au nombre de chevilles. Chaque cheville sert à accorder les cordes. Vous pouvez aussi regarder que sur ce violon, ici, là en bas, cette partie qui s'appelle le cordier parce qu'elle maintient les cordes, eh bien, il y a 4 petites vis qui permettent d'être plus précis. Qui ont le même rôle que les chevilles que l'on tourne comme sur une guitare, mais celles-ci, on va dire qu'elles sont plus manœuvrables et qu'elles permettent de moins torturer les cordes qu'avec les chevilles d'en haut qui sont un principe simple mais un peu archaïque. Le violon, c'est un instrument à cordes. Pour faire résonner un instrument à cordes, on a besoin d'une caisse. Et alors, d'une caisse, là, ici, vous avez une caisse. Dans cette caisse, il y a du bois. Avec ce bois, qu'est-ce qu'on va faire? D'ailleurs, ce bois, est-ce que quelqu'un saurait, par connaissance des bois, dire quel est ce type de bois? Ah, c'est difficile, c'est une question difficile. Un petit indice pour ceux qui seraient férus de bois. C'est un bois qui a une particularité de refléter la lumière de manière particulière quand on l'oriente plus ou moins. Je ne sais pas si vous voyez, ça fait des petits reflets lumineux. Je vais montrer d'ailleurs avec l'alto là. Ça se voit pas très bien là. Mais si on est de près, on peut voir que ça se reflète étrangement. Voilà. Donc en fait, on va prendre ce bois qui s'appelle de l'érable. Il est très dur, il a des capacités acoustiques intéressantes. Il est dur mais en même temps souple. On va coller deux planches comme ça. Enfin, le luthier, c'est le monsieur qui fabrique les instruments, on va coller les deux planches. Une fois qu'il aura collé les deux planches, il va commencer à tailler un morceau de caisse. Voilà, et là on a un morceau de caisse. Vous voyez qu'il est déjà, il y a des dessins qui sont faits. Il y a même certains petits trucs un peu avancés, mais on ne va pas aller trop dans le détail. On voit qu'il y a le dessin des ouïes. Les ouïes, c'est une sorte de moustache ou de F qu'on peut voir, qui permettent, entre autres, de laisser sortir le son, mais pas uniquement. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique. Mais voilà, donc là, on va faire une première étape. Une caisse, bah, c'est comme une maison. Il faut un sol, il faut un plafond, et puis il faut des murs. Alors là, on avait le sol. Là, on a le plafond. Donc le sol, le plafond. Alors, autant le sol, c'est en érable, souvent, le plafond, c'est en épicéa. Il y a d'autres qualités acoustiques, notamment celle d'être assez fibreux. Il ne se détruit pas il ne se décolle pas sous l'effet de la vibration. D'ailleurs, c'est aussi une des raisons de la forme des F, là, des ouïes. Si c'est rond comme ça, c'est justement pour éviter que le bois se fende sous le fait des vibrations. Donc là, on a un sol, un plafond, et il me faut les murs. Les murs, ça va être ceci, qui est également en érable, qu'on appelle une couronne d'éclisse. Là, c'est un petit crin. Une couronne d'éclisse, donc qu'on va mettre entre les deux. Donc là, on a notre caisse qui est grossièrement, en fait, évidemment, tout ça est collé avec de la colle spécifique à bois, que le luthier met avec grand soin. Sachez qu'il y a deux petites pièces que je n'ai pas là pour vous montrer, mais qui vont rigidifier la caisse du violon. À l'intérieur, bon, ça va être difficile à voir, mais il y a un mot qui est très poétique, qu'on entend souvent, c'est l'âme du violon. C'est une petite pièce en bois qui est cylindrique, donc c'est un petit cylindre, comme ça, qui est très fin, qui rejoint le haut et le bas, et qui fait la jonction entre le sol et le plafond. Ça permet de supporter au bois en partie le poids des cordes, la tension des cordes qui appuie, parce que sur un violon il y a 30 kg de pression. Donc le bois à force, si on ne l'aidait pas un peu, il céderait. Donc il transmet les vibrations au sol. Et il y a aussi un autre objet, mais qu'on ne verra pas du tout là parce qu'il est vraiment plus difficile à observer. C'est ce qu'on appelle la barre. Elle fait quasiment toute la longueur du plafond, de la table d'harmonie, ça s'appelle la table d'harmonie, et c'est ici pour supporter le poids. Donc c'est le poids des cordes, le poids dû à la tension des cordes est réparti sur l'ensemble de la table grâce à cette barre et à l'âme du violon. Il y a aussi, il y a aussi d'autres pièces un peu moins particulières, mais quand même, à votre avis, à quoi va servir ce morceau de bois? Alors non, la touche, c'est... Vous pourrez remarquer que la touche, alors c'est un terme précis, la touche c'est la partie noire. Pourquoi? Parce qu'on la touche avec les doigts, c'est tout simplement. Alors donc la touche, juste pour finir, c'est ça, bravo, bonne réponse. Donc la touche, elle est en ébène. Alors pourquoi elle est ébène? Parce que comme on appuie avec les doigts dessus, ça peut créer des vibrations parasites. Et l'ébène est un bois extrêmement dur qui cache, enfin qui étouffe les vibrations justement parasites. C'est pour ça que, et qui supporte aussi la pression de la corde par le doigt qui a tendance à creuser. D'ailleurs, de temps en temps, il faut les retoucher. Donc effectivement, ça va être pour faire la tête. D'ailleurs, si vous regardez attentivement, on peut voir un petit dessin, voilà, qui va être creusé donc petit à petit. Alors là, j'ai une étape un peu grossière du final. Voilà. Et une étape bien plus avancée. Bon, là, il y a même des trous pour mettre regardez, une des chevilles. Voilà. Juste une petite chose, cet objet qui est beaucoup trop gros pour un violon ou pour un alto, vous savez comment ça s'appelle? Vous avez vu où est-ce que ça se place par rapport à l'instrument? Ça se placerait donc sur la table d'harmonie et c'est là où les cordes passent à cheval. Est-ce que quelqu'un... Exactement, c'est le chevalet parce que les cordes sont à cheval par-dessus. Il y a beaucoup de noms de l'endroit de l'instrument qui sont dus à leur fonction. Donc la tête, parce que c'est en haut, mais c'est pas vraiment une fonction. Par contre, au niveau de la tête, il y a les chevilles qui peuvent serrer ou desserrer les cordes. La couronne d'église parce qu'elle entoure le sol et le plafond. La touche parce qu'on la touche, le chevalet parce que les cordes sont à cheval, le cordier parce qu'il tient les cordes. Là, c'est le bouton. Voilà, c'est très intéressant, mais c'est ce qui maintient le cordier. Donc mine de rien, il y a une énorme pression qui est exercée ici. Ça, ça s'appelle la mentonnière. Ça, c'est quelque chose qui a été rajouté plus récemment au début du 20e siècle, mais je n'en suis pas certain. Peut-être que c'était un peu avant, ou à la fin du 19e. Toujours est-il que ça s'appelle la mentonnière parce qu'on y met le... Bravo. Et alors, un petit objet derrière qui est assez encombrant, là, vous voyez, cet objet noir. Alors, on appelle ça un coussin ou une barre ou une épaulière que l'on va placer au niveau de la... De l'épaule. De la épaule. Et, pardon, c'était... ça n'aidait pas. Voilà. Donc ça, alors ça, là, je vous ai montré des pièces d'un violon. Pourquoi? Parce que le violon, c'est quand même... Je vais tricher un peu. Le violon, c'est quand même un instrument assez petit, c'est pour ça que je le transporte un peu détaché. Alors, j'ai l'impression d'être une star de rock. Donc, un instrument, plus il est gros, plus il est... Oui, plus il est gros, plus il est grave. Est-ce que plus il est gros, plus il sera puissant? Ah pardon, ah désolé. C'est mieux? Normalement, je pense que tout le monde entend, donc oui, ça va. N'hésitez pas à faire ce genre de réflexion de dégrave, mais c'est important. Donc, l'alto, donc plus un instrument est gros, plus il est grave, et il n'est pas forcément plus puissant. D'ailleurs, le piccolo, qui est le petit instrument dans lequel on siffle, dans lequel on joue de la musique, c'est un instrument très agaçant quand il joue fort, et très fort, et il est minuscule et il peut être extrêmement perçant. Alors que, par exemple, la contrebasse, pourra jouer le plus fort possible, ça ne l'assourdira jamais vraiment, parce que c'est un instrument enveloppant, rond, mais qui n'est pas acide, qui n'est pas violent. Donc en tout cas, la taille n'a pas de rapport avec la puissance ou le volume, en tout cas. Donc plus il est grand, plus il est grave. Il y a aussi une petite chose, et c'est un peu plus délicat, c'est au niveau du timbre. C'est-à-dire qu'on a des... Alors, je vais rentrer encore dans des caractéristiques un petit peu techniques, et après je vais parler des qualités un peu plus esthétiques que doit apporter l'alto. Le violon à quatre cordes, tout comme l'alto, tout comme le violoncelle d'ailleurs, et tout comme la contrebasse, mais la contrebasse, parfois, on a cinq. Il y a même des contrebasses anciennes qui n'en avaient que 3, pour des raisons complexes, et puis ça a évolué, et puis finalement ça s'est finalisé sur 4 pour le violon, l'alto, le violoncelle, et 4 généralement pour la contrebasse, ou 5 parfois on rajoute une corde grave, parce qu'on aime bien avoir beaucoup de graves. Donc là, au violon, on a 4 cordes, le mi, le la, le ré, et le sol. Le sol qui est en bas, c'est pratique pour les enfants, le violoncelle, c'est le mi. Donc, 4 cordes mi, la, ré, sol. À l'alto, en revanche, je n'aurai pas exactement les mêmes cordes, je n'aurai pas le mi, mais par contre j'aurai également le la, j'aurai le ré, j'aurai le sol, et j'aurai le sous-sol, le do. Voilà. Donc, le do remplace le mi, on a une corde aiguë en moins, une corde grave en plus. Donc, c'est, pour les compositeurs, en tout cas, c'est extrêmement pratique, parce que c'est donc deux instruments qui se complètent un peu. Ils ont des zones communes, mais ils ont aussi des zones différentes. Le violoncelle aura les mêmes notes que l'alto, exactement, c'est-à-dire le la, le ré, le sol et le do, sauf que ça sera un étage au-dessus. Voilà, on va imaginer, voilà, c'est une femme qui parle à côté d'un homme, ils vont faire exactement la même mélodie, mais ils ne sont pas à la même hauteur. Enfin, c'est exactement pareil. La contrebasse, c'est différent. C'est différent, je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est plus grave et c'est c'est pas les mêmes écarts. Voilà, là, on a des quintes, c'est un peu compliqué, c'est un peu technique, c'est pas très important. Donc voilà. Alors, pourquoi? Parce que juste changer les notes, bon, au final, c'est intéressant, mais les compositeurs ont écrit beaucoup de morceaux pour violon, et la plupart des morceaux pour violon ont été écrits dans une esthétique très virtuose. Pas uniquement, le violon peut être tout à fait expressif, mais le violon a un son, on va dire, plutôt de nature brillante et parfois perçant, en tout cas plutôt fin, et le meilleur terme étant effectivement brillant. C'est un son assez fin, assez pointu. Maintenant, je vais jouer autre chose, une petite improvisation à l'alto, et on va voir la différence de timbre. On peut, non mais la question est intéressante, c'était est-ce qu'on peut se servir du marché? Concrètement, oui, on peut, mais après, c'est une question de confort et d'habitude. Juste l'archet de l'alto, et comme l'alto est plus gros, les cordes sont plus grosses, il est un peu plus lourd. D'ailleurs, le terme de lourd peut correspondre un peu plus à l'alto que le violon, puisqu'il est léger et pointu. Là, il sera un peu plus lourd, un peu plus gros, un peu plus enveloppant, un peu plus suave. Enfin, voilà. Ça sera moins. Là c'est un accord de sol, justement c'est pas le même sur le violon parce que c'est transposé, c'est la même mélodie mais qui est décalée, qui n'est pas tout à fait au même étal. Et donc, mais c'est la même musique et on sent bien qu'il y a un timbre très très différent. Par exemple, Schumann, il a écrit un morceau pour alto qui s'appelle le conte de fées de Schumann, donc, et qui peuvent être des évocations poétiques. On pourrait raconter à un enfant, mais sous forme de musique. C'est une sorte de musique symbolique, plutôt légère et plutôt douce, correspondant plutôt à l'enfance, d'où le nom des contes de fées. Donc il a écrit notamment ce qu'on pourrait traduire par une berceuse, que je vais jouer à l'alto, et après je vais être au violon et vous intégrer, en tout cas, que le caractère est fondamentalement différent. Schumann a écrit cette pièce pour alto, et là en quatre mouvements, il y a un premier mouvement qui est un peu « je vais te raconter une histoire », un deuxième mouvement on va dire qui est un peu une sorte de chevauchée fantastique, c'est pas une pièce uniquement pour alto, c'est une pièce pour alto et piano. Il manque l'interlocuteur équivalent. Donc il y a un mouvement, on va dire, qu'une sorte de chevauchée fantastique, un peu, voilà, on part à l'aventure. Ensuite, il y a un mouvement qu'on pourrait traduire par le combat, qui est assez, assez violent, voilà, qui il y a plein de notes, d'ailleurs c'est assez difficile à jouer. Et puis après ce combat, ben, il y a cette fameuse berceuse, voilà, maintenant il est temps de t'endormir mon enfant, voilà. Et Schumann avait écrit ce morceau à l'alto, c'était pour un ami altiste. Il faut savoir qu'un ami altiste à l'époque de Schumann, alors Schumann c'est 1810-1856, et c'était rare d'avoir un ami altiste, parce que l'alto c'était pas un instrument qu'on jouait en tant que tel, en fait on jouait du violon et de l'alto. C'était rare qu'on joue que du violon, c'était encore plus rare qu'on joue que de l'alto. Donc là il y a un ami qui lui a dit je voudrais un morceau à l'alto. Donc Schumann lui a écrit. Et après, il y a un autre ami qui lui a dit « Oui, mais bon, il est bien ton morceau, je voudrais que tu l'adaptes au violon. » Alors, il l'a adapté au violon, n'empêche que Schumann disait, malgré tout, il est adapté pour l'alto. Ça ne veut pas dire que Schumann ne savait pas écrire pour violon, qu'il n'aimait pas le violon. Il écrit d'excellentes œuvres, notamment une sonate pour violon, un concerto pour violon. J'aurais bien aimé qu'il écrive un concerto pour l'alto. Toujours est-il que l'alto professionnel en tant que tel, c'est-à-dire un altiste qui joue surtout de l'alto, je sais jouer du violon, mais je ne suis pas violoniste professionnel, je suis altiste professionnel. Le violon, je sais jouer parce que c'est très proche, mais je n'en suis pas un professionnel. C'est-à-dire, cette professionnalisation du métier de l'altiste n'est apparue qu'à la fin du 19e siècle, parce que là, on commençait à faire des œuvres vraiment très, très, très spécifiques à l'alto, et il y a des gens qui sont devenus donc, des personnages importants par l'alto, sans être forcément violoniste, ce qui n'existait donc pas avant. Mais par exemple, un très très grand compositeur, c'était surtout un très grand violoniste, c'est Niccolo Paganini. Peut-être que vous avez déjà entendu ce nom pour certains d'entre vous, il y en a qui connaissent. Donc il a écrit des œuvres horriblement difficiles au violon, mais en même temps extrêmement spectaculaires. Il a écrit 24 caprices, qui sont le cauchemar de beaucoup d'entre eux. Il a écrit aussi plusieurs concertos pour violon, j'en connais au moins deux, et c'est des cauchemars. C'est vraiment des cauchemars pour les violonistes techniquement. Alors c'est pas toujours extrêmement intense au niveau du discours musical, mais c'est toujours extrêmement performant et impressionnant à observer quand un violoniste sait jouer du Paganini. Eh bien il était altiste et il a demandé une œuvre à un compositeur très important qui s'appelle Hector Berlioz. Et il lui a demandé d'écrire une œuvre, un concerto pour alto et grand orchestre. Alors, qu'est-ce que c'est un concerto? C'est quand il y a un musicien qui se retrouve devant un gros orchestre et il dialogue entre eux, il concerte. Et donc Berlioz va écrire Harold en Italie, c'est une pièce qui... c'est une pièce qui raconte le personnage Harold de Lord Byron qui fait un voyage en Italie, tout simplement. Sauf que Berlioz, lui, il a une science de l'orchestre et pas une science de l'alto. Alors du coup, il va écrire un concerto pour orchestre accompagné par un alto, ce qui ne va pas du tout plaire à M. Paganini, qui va refuser la partition dans un premier temps, finalement, qui va la jouer. Par contre, du coup, Niccolo Paganini, étant insatisfait de la partition de Berlioz, va écrire une pièce pour alto et piano, qui est tout simplement injouable et donc non jouée. Voilà, parce qu'elle est pensée à l'alto comme il pensait les œuvres au violon, sauf que l'alto, comme il est plus grand, il est plus lourd, il est plus grave, le son est plus difficile à émettre. C'est-à-dire qu'il y a une inertie, ce n'est pas la même qu'au violon. Du coup, son œuvre, qui est une œuvre spectaculaire, est pensée pour un instrument brillant. L'alto n'est pas aussi brillant que le violon, donc cette œuvre est moins intéressante que ses équivalents pour violon. Voilà. Alors, d'autant plus que c'est vraiment une succession de notes qui vont plus vite, dans tous les sens, une juxtaposition d'éléments techniques. Spectaculaire et très difficile à mettre en place, mais qui n'ont pas un sens esthétique particulièrement intéressant. En tout cas, c'est pas ce qu'il a écrit de mieux, mais bon, il l'a fait, au moins c'est sympa, et du coup personne ne joue. Voilà. Est-ce que vous avez des questions déjà? Qui ne connaissait pas l'alto? Tout le monde connaissait. Voilà, tout le monde connaissait l'alto. L'alto, déjà, le mot d'où vient-il? Qu'est-ce que ça veut dire alto? Quand on dit alto, on n'imagine pas de musique, qu'est-ce que ça évoque? Tout à fait, ça évoque le haut. Alto, avant d'être un instrument, c'était le qualificatif pour une voix, la voix d'alto. Et alors, paradoxalement, la voix d'alto, on dit souvent que c'est la voix grave des femmes. Mais en réalité, c'est une voix plutôt aiguë. Et avant, au-dessus de la voix d'alto, il y a la voix de soprano. Voilà. Donc la voix d'alto, c'est la voix haute, qui était censée, d'ailleurs, l'instrument que vous avez ici, était censée doubler la voix d'alto. Le violon, lui, doublait la voix de la soprano. Et le violoncelle, lui, doublait la voix du ténor. Bon, sauf que les instruments ont évolué, et par la suite... D'ailleurs, il y avait un instrument intermédiaire entre l'alto et le violoncelle, mais qui n'a pas perduré, parce qu'il était assez peu pratique à transporter et à jouer. Le violoncelle, on le place au sol, et il est assez simple à jouer. L'alto, il y avait un équivalent très grand, et qui était très fatigant, et qui, pour des raisons aussi acoustiques, ne fonctionnait pas, parce que la caisse n'était pas assez grande par rapport à ce qu'on voulait produire comme ça. Donc, l'alto, c'est un instrument, et le mot veut dire un registre, donc plutôt vers le haut. Je vais vous parler d'une formation qu'on appelle le quatuor à cordes. Qui a déjà entendu parler du quatuor à cordes? La plupart d'entre vous. Alors, je vais quand même juste préciser ce qu'est un quatuor à cordes. C'est un groupe, il y a deux violons, un alto et un violoncelle. Alors, deux violons, c'est un peu particulier, puisque on met deux fois le même, on pourrait se dire, par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'a pas mis violon, alto, violoncelle, contrebasse? Alors ça ne s'est pas fait tout de suite. Il y a un compositeur qui s'appelle Joseph Haydn, qui est un compositeur du XVIIIe siècle, contemporain des philosophes des Lumières, qui fait partie du courant classique et qui est souvent rapproché à Mozart, parce qu'ils se connaissaient et qu'ils avaient la même vision esthétique. Et bien, c'est lui qui va instaurer principalement cette formation. Deux violons, un alto, un violoncelle. Et alors, pourquoi ça marche? Et bien, c'est simple. On a besoin d'une base. La base va être apportée par le violoncelle. Le violoncelle, c'est un instrument qui est plus gros, qui se joue assis, qui a des graves assez profonds. Pas autant que la contrebasse, mais quand même suffisamment. Suffisamment en tout cas pour l'époque classique. On a besoin d'un aigu, donc on va mettre un violon qui va jouer dans l'aigu, qui va jouer la mélodie. Et après, ce que les compositeurs aiment bien, c'est remplir le centre. Et pour ça, ils aiment bien avoir des parties intermédiaires. Alors il y a eu des essais avec trois violons, donc un aigu, deux, on va dire au milieu, et un violoncelle. Il y a eu des essais avec un violon, deux altos et un violoncelle. Et au final, ils ont convenu que ce qui allait le mieux, c'était un violon, un autre violon, un alto et un violoncelle. Donc le violon 2 et l'alto font le centre. Ils nourrissent le centre, c'est eux qui font la chaîne. Je vais essayer de faire un petit exemple au piano. Le quatuor à cordes, c'est une formation qui est extrêmement importante dans la musique de chambre. La musique de chambre, c'est justement, c'est pas les grands ensembles comme par exemple un orchestre symphonique, un opéra ou ce genre de choses. La musique de chambre, c'est d'ailleurs l'origine du terme, c'est la musica da camera. Camera, c'est-à-dire la pièce, plus que la chambre, on l'a traduit par chambre. Et c'est une musique qui se jouait dans les salons, dans des milieux plutôt bourgeois, voire aristocratiques, qui était mis en opposition avec la musique de chasse, la musique d'acacia et la musique sacrée. La musique sacrée qui se joue donc à l'église, et qui est plutôt avec de l'orgue, avec des cuivres, et la musique de chasse aussi avec des cuivres, mais plutôt les corps de chasse, qui sont d'une utilisation très très différente. Donc la musique de chambre va trouver, en tout cas dans le quatuor à cordes, une matière extrêmement importante, et donc Haydn va être le premier à proposer cette formation du quatuor à cordes. Et ça, c'est un grand bonheur pour l'alto, parce que l'alto ne sera pas du tout aussi récompensé que le violon ou le violoncelle pour son répertoire. Les compositeurs écriront beaucoup moins. Je vous ai parlé de Schumann, il a écrit une très belle pièce. Brahms en a écrit d'autres. Mais par exemple, Bach n'a rien écrit pour alto. Mozart n'a rien écrit pour alto. Enfin, énormément de compositeurs n'ont rien écrit spécifiquement pour l'alto, sauf essentiellement dans les quatuors à cordes, où là l'alto prend toute sa place, ou dans quelques œuvres un peu plus discrètes. Donc l'alto, pourquoi est-ce que l'intitulé de cet atelier s'appelle l'alto, le grand frère oublié du violon? Alors pourquoi est-ce qu'il a été oublié? Eh bien malheureusement, parce que pour cette raison-là, les compositeurs ne se sont pas tant penchés que ça sur l'alto en tant qu'instrument soliste. Soliste, c'est-à-dire mis particulièrement en avant. Le violon par son caractère brillant, et le violoncelle par son caractère extrêmement virtuose, parce qu'il a il y a eu des tarés au 18e siècle, au 19e siècle, qui jouaient du violoncelle comme du violon, en faisant tout et n'importe quoi, ce qui est inimaginable, et de manière plutôt brillante. Le violoncelle a cette capacité de jouer brillant dans l'aigu et sombre dans le grave. Et ça, les compositeurs, on leur dit, vous avez des capacités extraordinaires, eh bien, très bien, c'est quoi votre note la plus grave? C'est quoi votre note la plus aiguë? Alors, ça fera... Les compositeurs adorent utiliser l'étendue de ce qu'un instrument propose. L'alto étant un peu plus resserré dans sa capacité, du coup, bah, les compositeurs ils s'amusent moins à écrire des trucs de tarés. À part, donc, Paganini, mais ça n'a pas été un résultat extrêmement concluant. Donc, l'alto a été oublié pour ça. D'ailleurs, petite anecdote, l'alto est souvent un peu la risée des instruments de l'orchestre, enfin, des instruments de la musique classique. On parle même de blagues d'altiste, comme on parle de blagues de blonde ou de blagues de belge, voilà. Et ça a autant de pertinence pour les autres. On dira par exemple que quelle est la différence entre, dans un orchestre entre le premier alto et le deuxième altiste, bah, une mesure et un ton. Voilà, parce qu'ils ne sont pas capables de jouer ensemble. Voilà. Voilà, c'est tout à fait dans cet esprit-là. Voilà, on dit aussi que Beethoven est devenu sourd en attendant un alto passé à côté de lui, voilà, ce genre de choses. Et que Van Gogh se serait suicidé pour la même raison. Bon, c'est la raison historique qui fait que l'alto n'est pas très connu, et en plus l'alto souffre de sa trop grande similitude avec le violon, ce qui fait que quand on voit dans l'orchestre, on se dit c'est un grand violon, mais ce n'est pas un instrument spécifique, ce n'est pas enseigné. Alors je voulais, tout à l'heure je vous parlais du quatuor à cordes, je voudrais juste montrer un tout petit peu l'écriture, comment s'écrivent les partitions pour violon et comment s'écrivent les partitions pour alto. Alors là, j'ai une partition pour alto et j'ai la même pour violon. Je vais essayer de passer un peu plus proche pour vous présenter un peu les caractéristiques. Il y en a qui savent tout. Alors le violon, c'est en clé de sol. Alors qu'est-ce que ça veut dire la clé de sol? À l'origine, vous avez sans doute vu des partitions régulièrement dans votre vie. Vous savez qu'une portée, c'est plusieurs lignes parallèles sur lesquelles on met des petits ronds qui sont parfois pleins, parfois creux, enfin parfois vides, on va dire. Voilà, ce qui fait des blanches, des noires, et que plus c'est haut, plus c'est aigu, plus c'est grave, plus c'est en bas. Eh bien, avant de déterminer la première note, on dit, on met une note au milieu, on ne sait pas ce que c'est, eh bien, on va utiliser une clé. La clé de sol, c'est un dessin.
Exactement comment ils sont arrivés là, je dirais qu'ils ont fait un truc comme ça. C'est arrivé comme ça petit à petit, mais bon, c'est... Alors la clé de but. Ça, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un B, donc ça vient effectivement du C. Voilà. Le C qui, on va dire, était fait comme ça, puis un jour ils ont fait. Voilà, c'est extrêmement stylisé. En tout cas, les lettres correspondent à les notes. Et d'ailleurs, tiens, si je prends le B, je prends le A, le C et le H, ça me fait C'est un thème qui va employer plusieurs fois comme signature. Donc ça a du sens. En tout cas, les compositeurs s'en sont énormément servis. Il y a un autre compositeur russe qui est beaucoup plus récent, qui s'appelle Dimitri Shostakovich. Il va traduire par Z pour Dimitri. Et Shostakovich, c'est SCH. Vous allez me dire, c'est bien gentil, mais le S, ça n'existe pas. Alors le S, en russe, on le dit ES. E, c'est le milieu. Et le S, ça fait Mi bémol. Donc ça fera Ré, Mi bémol. Donc si d'écart, et pareil, il s'en servira comme si c'était pas là où je voulais en venir. Voilà. Donc une clé de sol et une clé de fa. Si je rajoute une deuxième clé de sol, ça me fait un violon alto violon. Parce que la clé toute est la clé du centre. On joue au médium. L'aiguille, c'est la clé de sol. La clé de sol. Et la clé de fa, c'est pour le la. Ah, ça c'est une partition de violon. On voit la clé de sol et hop,
plein de notes derrière, il y a des bémols, là il y a toute la clé de sol, plein de notes du début à la fin.
Et là, ici, c'est le même morceau, mais vous en pensez différent, désolé. C'est la même chose, c'est le même morceau, adapté pour le tout, en réduite. Voilà. D'ailleurs, c'est aussi une raison pour laquelle le violoniste ne joue pas le tout. C'est pas parce que c'est forcément plus dur, mais c'est parce qu'il faut lire la clé d'huile. C'est comme. Je ne trouve pas d'équilibre. C'est comme s'il y avait une police d'écriture, vous n'arrivez pas à. Vous allez lire le comics en MS, vous allez lire le gothique, et là vous tombez sur le. Voilà, c'est la même chose, c'est juste écrit.
Alors, quand tu raccordes, ça donne ça.
Là, ça c'est. On appelle ça un système. Au piano, il y a deux mains, on va écrire sur un système sur deux portes. Souvent la clé de sol en haut et la clé de fa en bas. Parfois, il y a des couverts qui sont comme ça. C'est plus rare, et du coup, ça c'est la clé de sol en bas et la clé de fa en haut. C'est plus rare. Là, en quatuor à cordes, quelle que soit la formation proposée, on va généralement mettre le grave en bas et l'aigu en haut. Je parle du bas, dans ce système, là j'ai une clé de fa, c'est pour le concept. Une clé d'ut, je suis désolé, hein, j'ai pas de gros plan. Une clé d'ut pour le tuto, une clé de sol pour le second violon et une deuxième clé de sol pour le premier. Donc ça, c'est un système. La musique, ça se trouve comme ça. Je passe un cran là, un système après, et je vais ainsi de suite. Donc, les informations se déroulent comme ça, quatre informations de temps, c'est bien quelque chose. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est assez. Alors, c'est difficile pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit,
le violon c'est petit, donc les cordes sont légères, donc l'archet est également plus léger, le rapport instrumental est plus libre, on va dire. Là je produis une musique sans faire d'efforts musculaires importants. Alors de concentration oui, il faut bien presser les doigts, il faut être agile, il faut être rapide, etc. Mais par contre, musculairement, c'est un instrument qui réclame extrêmement peu d'efforts. Voilà. Si je fais le même genre d'efforts à l'alto, ça va donner ça. Donc là, il n'y a pas une pression exercice suffisante sur les cordes, ce qui fait que tout zingue, tout est. Ce qui a sans doute permis la fameuse réputation de l'alto, un peu risible dans l'univers de la musique classique, parce que justement, les mauvais violonistes à l'alto faisaient de très mauvais altistes. Voilà, donc, et comme les compositeurs mettaient des parties très importantes au violon, on mettait souvent les mauvais violonistes aux altos qui avaient une partie souvent moins importante, ce qui faisait que. Bah déjà, ils avaient des trucs moins intéressants à jouer, et en plus, ils jouaient mal. Donc voilà, ça accentuait un peu ce côté-là. Mais donc, pour jouer de l'alto, souvent, on joue la même chose qu'au violon, mais un peu plus lent, le temps d'émettre une vraie projection sonore, et surtout, et du coup, bah, tout est un peu plus lent, du coup, un peu moins brillant. Et sachant que le son est déjà un peu moins brillant, tout va dans le côté un peu plus large et sombre, et moins brillant et spectaculaire que le violon. La question était, est-ce que c'est difficile de passer de l'un à l'autre? Oui, parce qu'à chaque fois qu'on prend un instrument, je m'adresse à une pianiste, je crois. Ah oui, j'ai vu tout à l'heure. Quand on passe à un piano, bah, on se rend compte qu'il y a un toucher. Voilà, une résistance de la touche quand on appuie, une résonance particulière, etc. Et bien là, bah, c'est pareil. Ah oui, là, il faut appuyer un peu plus. Voilà. Alors certes, ce sont mes instruments, mais après tout, il y a une adaptation qui... Surtout quand on parle, qu'on fait le show, voilà, et bien on n'est pas forcément ultra concentré à 100% sur les sensations qu'on a, et du coup, effectivement, c'est plus difficile. Effectivement, plus l'instrument est grand, alors c'est vrai que ça j'en ai pas parlé, sur une corde, on a 4 cordes. Donc qui dit 4 cordes, dit 4 notes. Là je vous avais dit c'est Do, Sol, Ré et La. Maintenant, 4 notes c'est pas terrible. Enfin, voilà, on est vite limité avec 4 cordes. Si on avait que des cordes et qu'on faisait rien d'autre avec, et bien on ferait une harpe. Une harpe, je crois, 72 notes, donc 72 cordes. Et encore, même là, ils trichent parce qu'ils ont des pédales pour modifier la tension des cordes. Enfin, pas la tension, mais la longueur de vibration, mais c'est un peu le même principe. Du coup, ils peuvent faire 72 x 3 notes. Voilà. Donc, nous, on n'a que 4 cordes. On n'a pas de pédales pour tricher. On va utiliser nos doigts. Le doigt de la main gauche qui va toucher les cordes, d'où le nom de la touche. Donc, et en appuyant sur la corde, je modifie la longueur de vibration. Là, quand je fais un pizz, enfin quand je fais résonner la corde, elle résonne sur toute sa longueur. Si je pose le doigt, elle va résonner sur une partie plus petite. Du coup, le ton, plus la longueur est courte, plus le son sera aigu. Plus je réduis, plus le son sera aigu. Après, plus la corde est fine, plus le son sera aigu. Plus la corde est tendue, plus le son sera aigu. Il y a plein de paramètres qui peuvent modifier la hauteur du son. En tout cas, la longueur de corde est un paramètre avec lequel on joue. L'écartement change. Pourquoi ? Parce que dans une corde, c'est une question de proportion. Si je joue la corde et que je mets le doigt au milieu, vous allez entendre exactement ce que ça donne. Des doigts n'est pas le même en fonction du violon et de l'alto. D'ailleurs, l'alto c'est plus grand, le violoncelle c'est encore plus grand, et la contrebasse c'est vraiment très très grand parce que la contrebasse ça fait à peu près cette taille là. Et pour changer de note, ils sont vraiment obligés de faire des gestes extrêmement exigeants d'un point de vue musculaire et des tendons. Ouais, c'est un instrument très très physique, la contrebasse. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'ont pas le même écartement de cordes. Nous on a des quintes qui séparent les quarts. Le violon, c'est Sol, Ré, La, Mi. Sol, Ré, c'est une quinte. Sol, La, Si, Do, Ré. C'est un écartement de 5 notes. Ensuite, Ré, Mi, Fa, Sol, La, La, Si, Do, Ré. L'alto, c'est pareil. Le violoncelle, c'est pareil. Encore, le violoncelle, c'est déjà plus compliqué parce que les écartements sont vraiment plus grands. Et à la contrebasse, les écartements étaient tellement gros que si on voulait jouer toutes les notes de manière confortable, il fallait réduire l'écart entre les cordes. Parce que justement, l'écartement d'une contrebasse, c'est... Enfin, ça tord la main, enfin voilà, ils sont d'ailleurs quand on voit parfois de très charmantes contrebassistes et qu'on voit leur main, on dit c'est la main du bûcheron d'à côté, mais sur le corps de... Enfin, petite et contrebassiste, c'est compliqué. Parce que... Voilà, c'est, physiquement, c'est un instrument assez exigeant. Je ne le recommanderais pas aux petites filles ou aux petits garçons, d'ailleurs. D'ailleurs, les jeunes contrebassistes commencent systématiquement sur des violoncelles avec des cordes de contrebasse, et ça sonne extrêmement mal, parce que le violoncelle n'a pas du tout la taille de caisse suffisante pour faire résonner une contrebasse. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres... J'espère avoir répondu à la question. Oui.
Et du coup, l'écart sur la contrebasse, c'est quoi?
Alors, l'écart, en fait, c'est toujours... C'est difficile de répondre à cette question, mais...
C'était la quinte sur le violoncelle.
Ah oui, c'est une quinte. Alors, accessoirement, la corde la plus grave de la contrebasse à 4 cordes, j'ai dit qu'il y a des contrebasses à 5 cordes aussi, parfois, mais je vais le dire après. Mais la corde la plus grave de la contrebasse à 4 cordes, en tout cas, c'est le Mi. Donc, Mi très grave, je vais le jouer au piano. Donc, c'est un Mi extrêmement grave, extrêmement résonnant. Et ensuite, on monte de 4 notes. Donc, Mi, Fa, Sol, La. Et ensuite encore 4 notes, La, Si, Do, Ré, et Ré, Mi, Fa, Sol. Donc ça fait Mi, La, Ré, Sol, alors que le violon, c'est Sol, Ré, La, Mi. Donc c'est exactement l'inverse en fait, mais sous forme de quinte, alors que d'un côté c'est sous forme de quinte. Voilà. Et si on rajoute une cinquième corde, ce sera grave, ça fera au-dessous du Mi, on fera soit un Do, ce qui est un peu bizarre parce que Do, Mi, c'est une tierce, donc c'est pas le même écart qu'avec les autres, mais c'est souvent ça parce que les compositeurs aiment bien avoir un Do grave. Alors pourquoi? C'est un peu technique, désolé pour ceux qui ne suivront pas, mais parce que le violoncelle, la note la plus grave, c'est le Do. Et s'ils veulent avoir une octave au-dessous de la note la plus grave du violoncelle, ben ils ont le droit du Do au violoncelle, à la contrebasse. Donc parfois on rajoute un Do, mais c'est pas très logique pour des questions justement d'écart entre les cordes. Ou alors ça sera un Si bémol. Mais c'est beaucoup plus rarement fait. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il y a un bémol et qu'il n'y a même pas avoir une corde avec un bémol. Enfin, voilà, je ne saurais pas forcément justifier. Non, ça sera un Si. Donc, je dis vraiment une bêtise, ça sera un Si. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est très rarement fait pour une raison générale. Voilà, donc des cartes à la contrebasse. Voilà, il y a d'autres. Oui.
Est-ce que les compositeurs contemporains s'intéressent de plus en plus à l'alto ou ça reste toujours le violon
Alors, j'ai pas vraiment. Enfin, j'aurais dû évoquer ça tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai parlé de Joseph Haydn qui a écrit pour quatuor, etc. Bach qui n'a pas écrit pour alto, Mozart qui n'a pas vraiment écrit pour alto. Alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont quand même écrit d'abord. Quand on écrit pour orchestre, on écrit toujours pour alto, donc c'est pas parce qu'ils connaissent pas l'instrument. Donc l'alto a toujours été pris au sérieux par les compositeurs, sérieux, on va dire. Voilà. Donc, mais par contre, il a rarement position de soliste. La position de soliste, j'ai parlé de Paganini qui a voulu la mettre en place, mais de manière un peu immature parce qu'il a voulu prendre le rôle du violon et le mettre à l'alto. Pas adapté. Berlioz, lui, avait mieux compris le rôle de l'alto, il s'en était servi de manière expressive plus que spectaculaire. Hein? Donc Berlioz, 19e siècle, avait mieux compris qu'un très très bon altiste le rôle de l'alto. Par la suite, les compositeurs s'en sont emparés, Brahms a écrit des pièces pour alto, et après Debussy, alors au début du 20e siècle, il y a des pièces, il y a un grand altiste qui s'appelait Paul Hindemith, qui était également compositeur, qui a écrit des pièces pour alto, très spectaculaire, mais pensé pour alto de manière intelligente. Bon, après, ça donne le courant esthétique, on appelle ça le motorisme, il a inventé ça. C'est des notes qui vont très 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 très, très vite. Je vais essayer de jouer le début, mais soyez clément parce que c'est vieux dans... Le morceau fait 1 minute 20, enfin ça dépend du tempo, entre 1 minute 10 et 1 minute 30, et moins d'une minute 10 pour les plus furieux d'entre nous. Sur la partition, il y a écrit « Sauvage, le plus vite possible, la qualité du son est accessoire ». Bon. Par contre, le tempo, je n'ai jamais vu ça nulle part, c'est que des noirs. C'est que des noirs, sauf le dernier rythme qui est une note carrée, c'est-à-dire une très longue ronde, on va dire. Donc, c'est que des noirs, et le tempo, c'est noir égale... Attention pour le musicien, 600 à 650. Essayez de trouver un métronome qui indique. J'arrive même pas à battre le. C'est pas faisable. C'est plus de 10 battements par seconde. Donc ça va très très vite. Bon, il a pas écrit que ça, mais voilà. Il a écrit en tout cas, et là on est en 1922, je crois. Enfin, en tout cas, c'est au lendemain de la Première Guerre mondiale. C'est une esthétique particulière, c'est le surréalisme en France, c'est l'expressionnisme en Allemagne, le dadaïsme. et le motorisme donc, qui l'instaure musicalement, voilà, en tout cas avec cette pièce pour alto. Il n'y a pas que ça dans cette pièce, il y a des mouvements lents et très expressifs, très beaux d'ailleurs. Voilà, il a proposé ça, il y a d'autres compositeurs, il y a Shostakovich. Alors, il y a aussi une particularité, l'alto est un instrument, on va dire, un peu étrange, parce qu'il n'a pas les capacités brillantes que propose le violon. Techniquement, il est un peu moins performant que le violoncelle, en tout cas dans l'étendue de ses capacités. Ça ne veut pas dire qu'il en a des spécifiques, mais il en a des spécifiques. Mais les compositeurs, souvent, écrivent pour alto à la fin de leur vie. C'était le cas de Schumann, c'était le cas de Brahms. Brahms, la dernière chose qu'il écrira, qu'il décidera d'écrire, c'est un quintet pour deux altos. Parce qu'il avait déjà écrit un quintet pour deux altos, il disait, bon, je regarde ce que j'ai écrit, qu'est-ce que j'écris de mieux, c'était mon quintet pour deux altos. Moi, je vais en écrire un deuxième, puis après j'arrêterai parce que j'aurais assez dit de belles choses. Bon, donc il écrit ce quintet pour deux altos. Et finalement, il fait la rencontre d'un clarinettiste et il dit « Ah, oh, la clarinette, c'est génial, moi, je vais écrire finalement des morceaux pour clarinette. » Et dernière chose qu'il fera avant de mourir, adapter ses sonates pour clarinette pour alto. Donc, en tout cas, Brahms, ça sera pour alto. Debussy, donc on change en France. Debussy, une des dernières œuvres, c'est pas la dernière, mais une des dernières œuvres qu'il va écrire, ça sera une sonate pour flûte, alto et harpe. Une formation qui n'existait pas avant, mais voilà. À la base, il avait pensé pour flûte, hautbois et harpe, puis finalement, il s'était dit que l'alto serait plus expressif, en tout cas dans cette partition-là. C'est pas du tout histoire de dire que le bois est moins expressif, c'est pas du tout la question. Juste pour ce qu'il voulait faire dans cette partition, l'alto était plus adapté. Donc, c'est pas le seul. Bartók, la dernière chose qu'il écrira, c'est un compositeur hongrois, il va écrire, et malheureusement, il va pas terminer, ça va être terminé par un élève, un concerto pour alto. Shostakovich, avant de mourir, mais alors vraiment juste avant de mourir d'un cancer du poumon, il va écrire une sonate pour alto. Et alors, c'est une sonate extrêmement glauque, extrêmement. Il y a des choses très sarcastiques, etc. Mais ça commence par un mouvement lent, ça finit par un mouvement très lent. Et ça termine par une note très très longue. Une note qui dure plus d'une minute. Donc, voilà, qui est comme ça. Et comme on sait qu'il n'arrivait plus à respirer, bon, on imagine. Et bon, il y a des gens qui tombaient dans les pommes lors du concert où ça a été créé, mais bon, il était mort. Mais bon, voilà. D'ailleurs, une autre petite anecdote très réjouissante sur Shostakovich. Donc, Shostakovich, je ne l'ai pas dit, c'est un compositeur qui a vécu pendant l'URSS et qui a très mal vécu pendant l'URSS à cause du régime très, très. Que tout le monde connaît ici. Donc, il y avait une police de. Culturelle extrêmement lourde et qui imposait aux compositeurs de faire en fonction des désirs du parti. Alors, la plupart des gens ont en tout cas des drames personnels qui ne leur permettent pas d'écrire comme des machines. Et il écrira donc à la fois d'un côté de la musique pour faire plaisir au parti avec du boum boum pan pan, voilà, gloire aux forêts de Russie, ce genre de choses. Et à côté, il va écrire donc des pièces comme la sonate pour alto, extrêmement sombre. Et il va écrire notamment, c'est la 14e symphonie, qu'il a écrite donc juste après une attaque cardiaque, et qui termine par un accord extrêmement horrible, très tendu comme ça, qui se répète ta 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 entrepris par les compositeurs dans la fin de leur vie. Pourquoi, c'est un peu difficile de répondre. Sans doute, quand ils sont jeunes, ils ont envie de démontrer quelque chose techniquement, brillance, etc., blancheté, etc. Et à la fin, ils sont peut-être plus dans la nostalgie, et c'est vrai que c'est un terme qui correspond plutôt à l'alto. On dit souvent que c'est un instrument très noble, ce qu'on dit moins pour le violon, ça ne veut pas dire que le violon, c'est pas noble. Donc, une des caractéristiques majeures de l'alto, c'est un instrument noble, et qui amène à la nostalgie et à l'introspection. Voilà. Donc, la question était, est-ce que les compositeurs écrivent au 20e? Maintenant, je m'en souviens. Oui. Et au 21e, bien sûr. Oui, alors, Dvorak, c'est un très bon exemple. Il était artiste, mais comme je dis, encore, ça commençait. Mais il était recruté en tant qu'altiste sous la table, et cela dit, il était violoniste. Il a écrit un concerto pour violon, il a écrit un concerto pour violoncelle, il a écrit un concerto pour piano, il n'a écrit aucune pièce pour alto accompagné par je sais pas quoi. Il a écrit, mais par contre, moi je jouais du Dvorak en quatuor à cordes, et très belle partie pour alto. Le quatuor le plus connu de Dvorak, c'est le quatuor américain, en tout cas le plus joué. Et ça commence par un solo d'alto, qui est voilà, on est très content, on dit ah, on a un solo. En plus, il est bien pensé, il est très adapté. Et Dvorak, comme il était altiste et violoniste, il écrivait très bien pour l'un et pour l'autre, il comprenait aussi très bien le violoncelle. Et du coup, c'est en général très agréable de jouer sa musique parce qu'il est extrêmement adapté pour nos instruments. Ouais, très grand compositeur du 19e siècle, contemporain de Brahms, dont il était ami. Et Brahms avait un petit côté maître par rapport à Dvorak qui lui a permis de se développer, ainsi que Mahler. Est-ce que. J'allais répondre à une autre question, c'était par rapport à la contention de la taille, puisque je l'ai noté, je suis très fier de l'avoir noté, mais j'ai oublié. Voilà. Donc je ne réponds délibérément pas à votre question. 35 cm pour le violon de caisse, c'est ça, c'est la caisse. Et 41 cm pour la taille. Ça, ce n'était pas la question. La question, alors, c'est. Il y a deux réponses possibles. En général, c'est comme dans un quatuor à cordes, il y a deux violons, un alto, un violoncelle, donc ça serait la proportion, on va dire, à la truelle. En général, donc, par contre, il faut bien se dire qu'il y a une partie de violon, une partie d'un autre violon, très spécifique, donc c'est deux instruments différenciés, voilà, et un alto, donc 1-1-1-1, on va dire. En orchestre, en général, pour des questions d'équilibre, bon déjà, on rajoute les contrebasses, on rajoute les instruments avant, cuivre et bois, et des percussions. Donc forcément, les rapports sont disproportionnés. Par exemple, pour une flûte, il y aura à peu près 6 violons. Donc s'il y a deux flûtes, on pourrait imaginer 12 violons. Bon, s'il y en a 4, on ne peut pas. Voilà. Enfin, en tout cas, on ne peut pas respecter cette proportion. Il y aura, dans un orchestre symphonique, on va dire de taille moyenne, il y aura à peu près 8 premiers violons, 6 ou 7 seconds violons, donc déjà un peu moins, 6 ou 5 altos, 5 ou 4 violoncelles, et 2 ou 3 contrebasses. Voilà, donc c'est légèrement dégressif, donc il y aura un peu moins de la moitié au total d'alto que du nombre de violons total. Mais bon, sauf que, après ça dépend. S'il y a 12 premiers violons, il y aura souvent 10 violons, 10 seconds violons et 8 altistes. Donc ça fait 22 violons pour 8 altistes. Donc c'est un peu à la louche. En général, c'est à peu près ces proportions-là. Pourquoi ? Parce que les premiers violons ont vraiment besoin de sortir. C'est souvent eux qui ont la mélodie qui doit être mise en valeur. L'alto est là pour soutenir le centre. Le grave étant fait par les contrebasses et violoncelles. D'ailleurs, souvent, à l'époque classique, Haydn, Mozart, la contrebasse et le violoncelle ont strictement la même partition à une octave d'écart. Voilà, donc parfois, la partie de contrebasse est simplifiée pour des raisons de pratique instrumentale, parce que la contrebasse, énorme comme elle est, a un son beaucoup plus... elle est beaucoup plus d'inertie. Mais voilà, donc il y a besoin, proportionnellement, toujours moins de grave que d'écart. Alors que, et pourtant, ce qu'on perçoit le mieux, c'est l'aigu. Donc, c'est pour des questions acoustiques. Ça ne s'est pas fait en un jour, ça a été cherché. Et là, d'ailleurs, cette formation orchestrale telle qu'on la connaît, l'origine, c'est Joseph Haydn, encore lui, donc, qui a créé le quatuor à cordes. C'est un peu lui aussi qui a instauré la formation de l'orchestre. Alors, on appelle ça l'orchestre symphonique, parce qu'il mélange les différentes familles d'instruments, à savoir les cordes frottées, les familles des bois, donc c'est flûte, hautbois, basson et clarinette, les cuivres, donc trompette, trombone, corps, parfois tuba, enfin dans les grands orchestres là, et les percussions. Au début c'était essentiellement les timbales, puis après le tambour, la grosse caisse, ça c'est élargi les cymbales et ainsi de suite. Voilà. Donc cette formation là, ça s'est pas fait en un jour, c'est vers, on va dire vers 1750. On a établi cette formation-là. Avant, il n'y avait pas vraiment de formation orchestrale vraiment très établie. Bach, il avait dans les concertos brandebourgeois, par exemple, il y a une version où il y a trois trompettes, quatre violons et une contrebasse. Il y a une version où il n'y aura pas de violon, mais il y aura des altos, il y aura deux cors et il y aura trois flûtes. Et voilà. Avant, on faisait un peu, on disposait l'orchestre un peu dans tous les sens. Et pourtant, Bach est un excellent orchestrateur. Les formations de cordes, par contre, c'était généralement à peu près les proportions de violon et d'alto et de contrebasse. Ça, c'est quand même un peu plus ancien. Je tourne beaucoup autour de la question. Est-ce qu'il y a encore une question comme vous ? Oui, alors ça c'est vrai. Alors l'alto, alors ça j'en ai pas parlé au début, mais c'est le violon, l'alto et même le violoncelle sont des instruments qui n'ont pas vraiment d'origine précise parce que c'est des cordes qu'on frotte sur une caisse. Et ça existait bien avant qu'on en ait des traces. Après ça a évolué, on va dire que la forme qu'on a à peu près là, c'est à peu près au XVIIe siècle qu'elle s'est établie. Voilà, donc les premiers violons vraiment calibrés sur le modèle qu'on connaît avec cette forme-là, dans les grands détails, on va dire, ça a été élaboré là. Depuis, on n'a pas fait d'avancée vraiment significative. Il y a une chose qui a principalement changé, c'est les cordes qui sont devenues métalliques au XXe siècle. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça projette plus, on va dire, mais c'est un son différent. Mais donc tous ces instruments sont issus d'instruments qui étaient aussi utilisés dans la musique païenne et bien sûr folklorique. L'alto. L'alto était évidemment joué et c'était un instrument qui a un intérêt dans notamment les musiques folkloriques d'Europe centrale. C'est un instrument qui fait souvent la rythmique et je vais montrer un peu ce que ça donne comme utilisation.
Thank you. Merci.
Ouais, c'est cool, hein.
Un peu plus chaleureux, après.